Sonar.
Antonio, citoyen de la ville de Vinci, en Toscane, consigna méticuleusement par écrit, au fil du temps, l'événement de la naissance et du baptême de ses enfants. Piero, Giuliano, Violante et Francesco. Comme un accomplissement, ce mémorial s'achève sur la venue au monde d'un petit-fils, le premier-né de Piero.
Un petit-fils m'est né de mon fils, Ser Piero, le 15e jour d'avril à 3 heures de la nuit. Il a reçu le nom de Leonardo. Leonardo da Vinci.
Amboise, mai 1518.
Quelle merveille! J'ignorais que Maître Léonard comptait dans la panoplie de ses talents celui de la mise en scène. Faudrait-il donc ajouter à ses titres de premier peintre, architecte, ingénieur de Sa Majesté François Ier, celui de premier scénographe?
Une merveille, oui, mais quelle frayeur! L'espace d'un instant, je me suis vraiment cru en plein milieu d'une bataille. L'artillerie avait l'air si réelle. J'étais bien heureuse de constater que les balles qu'elle tirait ne faisaient que rebondir.
Ces festivités sont bien dignes du dauphin, de Dame de la Tour d'Auvergne et de son nouvel époux, le duc d'Urbino. D'ailleurs, le duc d'Urbino doit être, lui, bien familier des artifices de Maître Léonard.
Mais le duc est bien plus jeune que Maître Léonard. Je ne prétends pas connaître son âge, mais il paraît avoir passé les 70 années.
Certes, cher ami, mais le duc d'Urbino est Laurent II de Médicis, petit-fils de Laurent Ier le Magnifique. Nul doute que feu son grand-père lui aura raconté les années passées par Maître Léonard à Florence.
Florence, j'ai l'impression qu'il y a si longtemps. L'âge dans son vol glisse en se cachant et trompe chacun, moi compris. Il n'y a rien de plus rapide que les années. Baptiste, allons, descendons les tours. Retournons au manoir du Clou. Il se fait tard.
Bien, maître.
Bonne nuit, mon cher maître. Tâchez de vous reposer. La préparation de ces festivités sûrement a dû vous fatiguer.
Tu sais, mon bon Baptiste, je ne me lasse pas d'être utile. Et il n'est pas de travail qui puisse me fatiguer. Bonne nuit.
Bonne nuit.
Laurent le Magnifique. Les Médicis. Les Médicis m'ont créé et m'ont détruit. Que de temps passé à travailler à leur service. Autant que je me souvienne, où que je sois allé, je n'ai jamais vraiment échappé à leur présence. Florence, Milan, Rome, maintenant la France. Laurent, Julien, Sa Sainteté Léon X, Laurent II, le duc d'Urbino. Tes écrits devraient probablement comprendre des traces de tout cela. Mais encore faudrait-il les ranger. Ah, que de choses m'ont faites. Voilà. 1465, 1464. Arrivé dans l'atelier du maître Verrocchio. Voilà. Premier mois. Maître Verrocchio travaille sur plusieurs commandes de Piero de Médicis. Je ne trouve pas la suite. Reprends. Comme tu enseignais à tes élèves. Te rappeler le passé te procurera l'expérience.
Florence, 1464. Comme certaines cités-états italiennes, telles Venise ou Gênes, Florence n'était pas une monarchie, mais une république dont le siège se trouvait au palais de la Signorie. Décimée au XIVe siècle par les épidémies de peste noire, Florence comptait au milieu du XVe siècle, dit le Quattrocento, environ 40 000 habitants. De Florence, l'historien et poète du XVe siècle, Benedetto Dei, disait « Elle rassemble les sept qualités essentielles d'une ville parfaite. D'abord, elle jouit d'une liberté complète. Puis, sa population est étendue, riche et élégamment vêtue. Elle est traversée par un fleuve aux eaux claires et pures et possède des moulins dans ses murs. Elle gouverne des châteaux, des villes, des terres et une population. Elle possède une université où le grec et la comptabilité sont enseignés. Elle compte des maîtres dans tous les arts. Et enfin, elle a des banques et des représentants d'affaires partout dans le monde. » Parmi ces banques, l'une était particulièrement florissante et devint même la plus importante d'Europe, la Banque des Médicis. Mais les Médicis n'étaient pas seulement banquiers, car si Florence avait l'apparence d'une république, en coulisses, il régnait de facto. Depuis les années 1430, Côme de Médicis, dit Côme l'Ancien, tenait les rênes du pouvoir. Afin de bien montrer à toutes les cités-états concurrentes leur puissance et leur richesse, les Médicis devinrent les mécènes de nombreux artistes. C'est principalement grâce à ce mécénat que Florence devint le berceau de la Renaissance. Florence. Son éclat brillait sur tout le nord de la péninsule et le dôme de sa cathédrale, Santa Maria del Fiore, était, à l'époque, le plus haut du monde. Ravagé par la goutte, comme l'Ancien de Médicis, mourait en 1464 à l'âge de 74 ans et laissait deux fils, Piero, qui lui succédera, et Giuliano. La même année, Leonardo da Vinci, né en 1452, entrait dans l'atelier d'Andrea del Verrocchio à Florence.
Léonard, qu'est-ce que tu dis... Oh, quelle odeur! Des lézards morts?
Oui, père. Je dessine ces lézards avec des ailes de papillon. Regardez le résultat. Terrifiant, non? Pourtant, ni le lézard ni le papillon ne sont des animaux effrayants. Simplement la combinaison des deux.
Oui, je vois. Léonard, écoute, je voulais te parler. Comme tu le sais, puisque je ne suis pas marié avec ta mère Caterina... Et même si à 12 ans, tu es en âge d'entrer dans une école de lettres, je n'aurai pas le droit de t'y inscrire.
Ah, je ne pourrai donc pas travailler avec vous dans votre étude de notaire, mon père ?
Tu dis cela avec bien peu de tristesse. Enfin, à chaque fois que je te vois flâner dans la nature avec ton oncle Francesco, je me dis que cela vaut peut-être mieux. Tu rassembleras tes meilleurs dessins, je t'emmènerai chez l'un de mes amis qui dirige l'un des deux ateliers de Florence.
Un atelier ? Un atelier de dessin ?
Tu verras. Il s'agit de l'atelier de mon ami Andrea del Verrocchio. Il a dans son atelier beaucoup de jeunes très talentueux. Et ses mécènes sont prestigieux, puisqu'il s'agit des Médicis.
peu importait que je ne suive pas l'école de lettres, quitte à ce qu'on me traite d'homme sans lettres. Même si le désir de connaître est naturel à ceux qui sont bons, il y a plus de choses à tirer de la nature que des mots d'autrui. Pourtant, je me suis bien rendu compte qu'en se fondant sur cette condition, certains présomptueux ont cru pouvoir me blâmer en alléguant que je suis un ignorant. Stupide engeance ! Ils ne savent pas que je pourrais leur répondre comme Marius répondait aux patriciens romains. Ceux qui vont se parant des travaux d'autrui ne veulent pas me concéder les miens. Ceux qui me blâmaient disaient que mon ignorance des lettres m'empêcherait de m'exprimer sur les sujets que je voulais traiter. Mais mes sujets, pour être exposés, requièrent l'expérience, plus que les paroles d'autrui. Et l'expérience ayant été la maîtresse de ceux qui écrivent bien, je la choisis pour maîtresse. Et, en tout cas, fis appel à elle.
Leonardo était un tel génie qu'il aurait accompli des grandes choses même s'il n'avait pas rencontré Verrocchio.
Francesco Cagliotti est professeur à l'école normale de Pise.
Mais sa grande chance a été d'avoir justement rencontré Verrocchio qui était prêt à le préparer à l'universalité qu'il a pu développer dans sa vie, dans son expérience, dans son art.
Il est par ailleurs le commissaire de la première exposition mondiale consacrée à Andrea del Verrocchio au Palais Strozzi à Florence en 2019.
Verrocchio, on l'étude comme sculpteur, et ça est correct car il était surtout ça, mais il était aussi peintre, musicien, architecte, ingénieur, scientiste, expert de perspective.
Bonjour, maître Verrocchio.
Ah, c'est vous, maître Piero. Et vous, jeune homme ?
Léonard, maître Verrocchio.
Ah, bonjour, Léonard. Et que me vaut l'honneur de votre visite, maître Piero ? Des nouvelles de nos affaires en cours ?
Non, toujours pas, maître Verrocchio. Je viens pour autre chose aujourd'hui. Tenez, regardez ces dessins. Ce sont ceux de mon fils Léonard. Qu'en dites-vous ? Que dirait-il à étudier dans votre atelier ?
Oui, absolument. Mais comme vous le savez, maître Pierre, nous ne pratiquons pas que le dessin. Mon atelier est polytechnique. Nous pratiquons ici surtout la sculpture, puis la peinture, l'orfèvrerie, l'architecture, l'ingénierie, et tous les membres sont amenés à travailler sur toutes ces disciplines à la fois, selon les commandes que nous recevons. Voyez par exemple, en ce moment même, nous travaillons à la fois sur une tombe pour les Médicis, celle de Comme l'Ancien à l'église Saint-Laurent, mais aussi sur plusieurs vierges à l'enfant...
Pour les Médicis également ?
Oh non, non, celles-ci sont pour d'autres commanditaires pour leur dévotion personnelle.
C'est donc en 1464 que Léonard fit son entrée dans l'atelier d'Andrea del Verrocchio. L'atelier de Verrocchio réunissait ceux qui devinrent parmi les plus grands artistes de la fin du Quattrocento. Sandro Botticelli, Lorenzo di Credi, Domenico Ghirlandaio ou encore le Pérugin. Pendant que Léonard était membre de l'atelier, plusieurs chefs-d'œuvre de sculpture y seront réalisés, parmi lesquels le groupe sur l'incrédulité de Saint Thomas, commandité par le tribunal des marchands vers 1466, mais aussi un David, figure très importante de la Renaissance italienne, utilisée par les puissants pour légitimer leur pouvoir. En atteste le David réalisé par Donatello et plus tard, le chef-d'œuvre en marbre de Carrare réalisé par Michel-Ange. Le David de Verrocchio était commandité par la famille Médicis vers le milieu des années 1460. Dans l'atelier de Verrocchio, tous les membres étaient amenés à travailler sur les commandes en cours, lesquelles étaient souvent livrées avec du retard. Le passage de Léonard dans l'atelier de Verrocchio fut fondamental dans sa formation. Il y resta environ 14 années.
Quand on va lire les pages consacrées par Giorgio Vasari à Verrocchio en 1550-1568, on reste frappé par la première page où il juge Verrocchio évidemment par rapport à Léonard, mais sans mentionner Léonard, il fait de Verrocchio la conclusion du deuxième âge, hein, ça veut dire la deuxième période de sa reconstruction chronologique. Et tandis qu'il utilise Leonardo comme le champion, l'héros de la dernière âge. Alors, cette comparaison le conduit à juger mal de Verrocchio en disant qu'il avait la manière un peu dure, hein. Et après, si on va au-delà de la première page de Vasari, on se rend compte que Vasari a seulement des éloges pour lui, car il est obligé de registrer phrase après phrase qu'il était parfait dans le métal, dans la peinture, dans la musique, etc. Alors là, on va reconstruire une expérience universelle sans laquelle on s'aperçoit à la fin, Leonardo n'aurait jamais été comme il a été. Vasari utilise une phrase très significative où il écrit, il dit que Verrocchio changeait continuellement d'activité, d'œuvre, pour ne pas s'ennuyer. Et c'est amusant, car là, on va comprendre qu'il s'agit à travers de Verrocchio d'une référence à soi-même, car Vasari travaillait il aussi comme ça. Mais grâce à ce mélange d'activités, Verrocchio ne s'ennuyait jamais et ce lui permettait de terminer ces choses. On ne connaît pas des œuvres en achevé de Verrocchio. Il préparait très très bien ces choses. Et il pouvait se permettre, si on peut passer cette boutade, de mourir en laissant des choses inachevées, mais déjà bien définies dans le chemin final. Voilà. Leonardo est tout le contraire. Leonardo, si je peux, a essayé d'être comme Verrocchio, même dans cette capacité, mais il n'est pas arrivé à la gérer bien. Ce mélange de plusieurs activités dans la même journée, dans la même semaine, n'a pas été d'aide pour lui, car on sait bien combien de choses il a commencé, mais pas terminé. Bon, je comprends que je tombe de l'histoire dans le roman, mais je pense que Leonardo a vécu toute sa vie en luttant avec le modèle trop difficile pour lui de Verrocchio. Verrocchio était pour lui un horizon loin. Peut-être qu'il était plus capable, plus génial encore qu'Andrea, mais il n'était pas capable de garder ensemble, de tenir ensemble l'invention et l'exécution. L'idée et la mise en application. Voilà, voilà. Je pense qu'il a eu du mal dans ses nuits, dans son âge mûr, à se rappeler de son maître et de ce qu'il avait fait au contraire de lui. Pendant les années 70, Verrocchio a eu l'intelligence de comprendre qu'il devait se servir de plus en plus de l'aide de ses élèves, hein, en partageant parmi eux les différentes parties des œuvres. Alors, il a aussi des genres, des matériaux avec lesquels on travaillait. Alors, il a gardé pour lui-même surtout le métal monumental, tandis qu'il a préféré, par exemple, confier le marbre à Francesco Ferrucci et la peinture à Leonardo et à Lorenzo Di Credi.
Encore sur l'ange, Léonard ?
Oui, maître Verrocchio, vous m'aviez prévenu. Mettre en place un véritable procédé narratif pour un personnage, fût-il secondaire, nécessite plus de travail que l'on pense. Cet ange doit être vivant, pas figé. Je dois parvenir à capter son mouvement. Un peu comme pour l'ange en terre cuite que vous avez réalisé. Quand on l'observe, on voit qu'il vit. Il est en mouvement. Le drapé de sa tunique semble encore flotter dans les airs.
Oui, Léonard, tu sais, je suis pour ma part toujours en train de travailler la figure de saint Thomas. Il faut moi aussi que je parvienne à capter son visage, au moment précis où sa main s'approche des plaies du Christ. Que pensait-il ? Était-il plein de remords ? Était-il joyeux ? Avait-il peur ? Était-il gêné ? Un peu tout à la fois ? Parvenir à le décrypter, c'est plus qu'une simple difficulté technique.
Absolument, maître. Pour atteindre la vérité de la peinture, la simple maîtrise technique est bien loin de suffire. Traduire une expression, peindre l'intérieur. Les contours ne sont que l'apparence des choses. Nos yeux mettent des limites aux objets. Mais la réalité est bien plus complexe. Je veux peindre plus que ce qui se manifeste à nos sens. Retranscrire la substance même de l'ange, le saisir de l'intérieur, et non me contenter de délimiter sa silhouette par un trait net qui n'existe pas dans la réalité. Les contours de nos corps sont bien plus troubles, toujours mouvants, toujours recréés. Ah, figurer tout cela... Non, maître, ce n'est pas du tout qu'une question de maîtrise technique. C'est un travail intellectuel, une science, une chose mentale.
Oui, comme tu dis, une chose mentale. Mais tu utilises de l'huile pour lier tes pigments ?
Oui, j'ai plusieurs fois vu les tableaux d'artistes flamands utiliser cette technique. Le Saint-Jérôme du Palais des Médicis, par exemple. Plutôt que de tracer les contours par des traits nets et bruts, l'huile permet de produire une finition vaporeuse. Regardez, maître. Si j'utilise de l'huile pour lier les pigments, j'obtiens un résultat bien différent de celui obtenu en utilisant du jaune d'œuf et la technique classique de la tempera. En utilisant l'huile comme liant, et très peu de pigments, les ombres et leurs limites ne peuvent être distinctement perçues dans ma peinture. Je ne les fais pas nettes ni définies avec précision, ainsi mon travail n'a pas l'apparence du bois. Ombre et lumière se fondent sans trait ni ligne, comme une fumée. Et puis, cette technique me permet de faire de nombreuses reprises et d'être encore sur l'ange, comme vous le dites.
Dans le baptême du Christ, vous voyez soit deux parties à la verroquiesque, soit deux parties à la léonardesque. Et là, on le voit bien à travers la diagnostic moderne, car on voit les différents niveau de la peinture. Alors, si avec la diagnostic moderne, on arrive au dessin du tableau, là, on voit la clarté, la précision, la géométrie parfaite de Verrocchio. Et après, on voit que de niveau en niveau de peinture, Leonardo va mélanger les choses, va créer l'éclair obscur peu à peu, à fur et à mesure, qu'on connaît de ces chefs-d'œuvre de l'âge mûr. Tous travaillaient allègrement, on dit comme ça, ensemble. Bon, et alors, même sur un petit tableau comme l'archange Raphaël de Londres, il pouvait arriver que, dans le même instant où un peintre de deuxième catégorie de l'atelier travaillait à ces choses-là, à cette chose-là, Leonardo, qui se trouvait dans l'espace voisin, il passait de là pour sortir de l'atelier et faire une promenade, et il disait, regarde, là, il faudrait mieux de retoucher le poisson, car là, on peut ajouter deux notes de lumière qui donnent plus de vivacité à l'animal. Alors, je ne suis pas gêné par le fait que dans une peinture petite, on peut trouver deux ou trois ou quatre mains différentes.
Dès les premières peintures de Léonard, et notamment le baptême du Christ, on pouvait déjà observer des effets de fumée, le fameux sfumato théorisé par Léonard. Giorgio Vasari, père de l'histoire de l'art moderne, écrivit au XVIe siècle qu'à la vue de l'ange peint par Léonard pour le baptême du Christ, Verrocchio ne voulut plus jamais toucher aux couleurs par dépit qu'un enfant en sut plus que lui. Peu de temps après, Léonard reçut la première commande d'un portrait d'une belle jeune femme qui devait véritablement lancer sa carrière hors de l'atelier d'Andrea del Verrocchio.